Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore parler de Jésus. Nous allons encore et encore et encore parler de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous propose les deux derniers versets de l'Évangile de Jean, non, puisque le verset 21, le chapitre 21 plutôt, chapitre 20 de l'Évangile de Jean, les versets 30 à 31. Avant de lire ce texte, je vous invite encore à la prière. Seigneur, nous l'avons lu tout à l'heure, l'Épître aux Hébreux nous a rappelé que dans ces temps de la fin, c'est par ton Fils que tu nous as parlé. Ton Fils est cette parole qui a été faite chair. Mais nous voulons vraiment, de façon personnelle, individuelle, entendre la voix du Fils nous parler. Nous lui ouvrons nos cœurs, nous nous rendons disponibles pour lui afin qu'il nous parle ce matin à travers ce message. Bénis ainsi l'écoute de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Jean chapitre 20, versets 30 à 31, pour tout simplement honorer cette parole, je vous invite à vous l'ouvrir sur ces deux versets. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, nous dit l'apôtre Jean, mais ces choses ont été écrites, il parle de son évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen.
Amen.
Prenons place, asseyons-nous dans sa sainte présence. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangile de Jean revêt une signification particulière. Particulière en tout cas pour plusieurs raisons. Mais la principale raison, d'ailleurs selon les spécialistes, et moi aussi je suis d'accord avec cette raison, c'est qu'il a été écrit par le disciple le plus proche de Jésus. L'évangile de Jean. En lisant l'évangile de Matthieu, vous avez un écrit de la vie et de l'œuvre de Jésus, effectivement, vu à travers les yeux d'un disciple tout acquis à la cause de son maître, Matthieu. Marc et Luc, de leur côté, étaient évidemment des chrétiens engagés qui connaissaient le Seigneur et l'aimaient, bien qu'il l'ait surtout connu à travers le témoignage des autres. Ils ne font pas partie des douze, hein, Marc et Luc. Jean, lui, est le disciple bien-aimé qui était proche, penché même sur le cœur, sur la poitrine de Jésus lors de l'institution de la Sainte Cène d'après Jean chapitre 13, qui se tenait au pied de la croix aussi, sur laquelle il souffrait le martyre et avait reçu d'ailleurs de Jésus l'ordre de prendre soin de Marie, sa mère. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie de ce cercle, en tout cas des intimes, qui ont vécu de près, je dirais, les moments les plus tragiques de la vie de Jésus. Jean a donc vu et entendu plus que les autres disciples. C'est pourquoi d'ailleurs son évangile est parfois appelé l'évangile intime. L'évangile de Jean, nous le savons, s'ouvre sur une déclaration solennelle qui fait d'ailleurs écho au livre de la Genèse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean chapitre 1, versets 1 et 2. La parole, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Jésus est, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure manière de Dieu de s'adresser aux hommes. Jésus. Celui qui refuse d'écouter Jésus a volontairement bouché ses oreilles à la voix de Dieu. Oui, entendre Dieu, frères et sœurs, mais c'est tout ce dont l'homme a besoin, entendre Dieu. Mais parce que Dieu sait tout, et il a une réponse pour chaque situation. Il n'y a personne ici, frères et sœurs, qui soit à plus d'un mot de Dieu, je dirais, d'une victoire absolue dans sa vie. Oui, Jean commence donc son évangile par une affirmation surprenante. Jésus, l'homme que Jean connaissait si bien, en tant qu'ami, en tant que compagnon, n'était rien de moins que le Dieu créateur de l'univers, celui qui existe avant l'apparition de toutes choses. Alors, que s'est-il réellement passé ? Il s'est passé que Jean a observé la vie de Jésus, jour après jour, et plus attentivement que n'importe qui sur la terre. Oui, Jean. Et il est arrivé à la conclusion suivante: cet homme est le Dieu créateur. C'est un homme, de par son apparence, évidemment, mais il est en même temps le Dieu créateur de ce monde. Par Jésus, Dieu est venu habiter dans le monde qu'il a créé. Quel mystère, mais en même temps, quoi de plus normal? C'est lui qui a créé ce monde. Il y a des moments où nous avons du mal à saisir pleinement la signification des mots « au commencement était la parole ». Mais si c'est difficile pour nous, voyez-vous, frères et sœurs, combien ce devait l'être davantage encore pour les disciples? Ils étaient certainement les moins disposés de tous les hommes à croire que Jésus était Dieu, car ils avaient vécu avec lui et avaient vu son humanité de plus près que toute autre personne. Et constamment, leur esprit a été assailli justement par cette pensée, je pense, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Mais que peut-il être, cet homme qui est avec nous? Lui qui guérit les malades, lui qui ressuscite les morts, lui qui parle au vent et à la tempête, lui qui change l'eau en vin, etc., etc. Mais qui est cet homme? En dépit de tous les signes, de tous les miracles, de toutes les démonstrations de force, de puissance et de sagesse de Jésus, frères et sœurs, je pense que les disciples ont dû faire un bond énorme. D'ailleurs, la Bible parle de révélation pour passer des mots « l'homme Jésus » à « mais mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà comment est-ce que Pierre s'exclame. Je me suis souvent représenté les disciples, voyez-vous, qui dorment à la belle étoile sur le bord même de la mer de Galilée, en compagnie du Seigneur, par une nuit chaude d'été, voyez-vous. Mais j'imagine Pierre qui se redresse un peu en s'accoudant, voilà, pour regarder Jésus endormi à côté de lui, en se demandant, mais est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-il possible que cet homme soit le Dieu de toute éternité? Écoutez, oui, mettez-vous à la place de Pierre. Il n'est pas étonnant que les disciples aient parfois été perplexes face à Jésus et qu'ils aient souvent, peut-être très souvent, échangé leurs impressions, leurs sentiments, leur point de vue après avoir entendu ses paroles, après avoir vu ses miracles. Mais l'épreuve, voyez, l'épreuve était si convaincante, et d'ailleurs même si nombreuse, qu'à la fin de l'histoire, voyez, quand Jean se met à évoquer les souvenirs, en tout cas de tout ce passé, voyez, il n'a plus hésité à proclamer quoi? La divinité de Jésus. Et c'est ça le message central de son évangile: Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Matthieu est l'évangile du roi. Marc, l'évangile du serviteur. Luc, celui du Fils de l'homme. Jean, celui du Fils de Dieu. L'évangile du Fils de Dieu. Nous comprenons par là que, selon Jean, selon l'apôtre Jean, le corps de Jésus, voyez, son humanité, le corps de Jésus n'était qu'un rideau. Mais le corps de Jésus n'était qu'un voile qui cachait vraiment qui il était. Il fallait une révélation pour rentrer là-dedans. C'est un corps qui voilait qui il était. Dieu devenu homme. Frères et sœurs, je vous assure que Dieu est grand. Tellement grand, d'ailleurs même impressionnant, que si vous étiez amené à le voir, comme nous dit la Bible, dans toute sa gloire, ah, je vous assure que vous exploseriez. Ça, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas supporter de voir Dieu. Personne, nous dit la Bible, ne peut voir Dieu et vivre. Puisque personne ne peut contenir la gloire de Dieu, il doit se cacher. Il doit se cacher. Mais sinon, la gloire, mais vraiment, détruirait, tuerait toute la race humaine. La gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est venu à nous à travers l'homme Jésus, afin que les hommes le voient et qu'ils soient sauvés. Oui. Donc, voyez-vous que Jean nous dit que le corps de Jésus cachait le fait qu'il était Dieu. D'ailleurs, 2 Pierre au chapitre 1 nous dit que sur la montagne de la transfiguration, mais Jésus avait un tout petit peu enlevé ce rideau, ce voile. Ce qui leur avait permis de faire quoi? Mais de contempler sa gloire, sa magnificence. Oui, frères et sœurs, Jésus est Dieu. La clé de cet évangile de Jean se trouve donc au chapitre 20. En fait, Jean a donné 2 conclusions à son évangile, à son récit. Le chapitre 21 constitue ce qu'on appelle une sorte d'ajout, de post-scriptum, d'additif, concernant les événements justement survenus après la résurrection. Mais en réalité, l'évangile de Jean se termine par les versets 30 et 31 du chapitre 20 que nous avons lu. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, dit-il. Mais ces choses-là, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie. Ensuite, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie.
La vie.
La vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ces 2 versets indiquent en réalité que l'objectif de l'évangile de Jean est double. Double. D'une part, Jean donne des preuves qui permettent à chaque individu sur la terre, à tout homme, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, dans toutes les époques, de croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Messie qui est la forme hébraïque du mot grec Christ, qui signifie moins. Donc, d'une part, Jésus est le Christ, le Messie, celui qui a reçu l'onction. Et d'autre part, l'auteur prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, afin que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle par son nom. Bien-aimé, alors, maintenant, commençons par d'autre part, Jésus est le Fils de Dieu, pour terminer ensuite par d'une part, Jésus est le Christ, le Messie. L'expression Fils de Dieu est souvent très controversée aujourd'hui, comme s'il fallait faire une distinction entre Dieu d'un côté et le Fils de Dieu de l'autre. Cette distinction, vous voyez, ne serait même pas venue à l'esprit d'aucun juif. Jamais, jamais. Pour eux, pour les juifs, appeler quelqu'un fils d'eux, mais c'était l'identifier à la personne ou à la chose, fils d'eux. Nous avons un exemple dans la Bible, dans le livre des Actes. Barnabas signifie littéralement fils de consolation, fils d'exhortation, fils d'encouragement. Barnabas, Actes chapitre 4, au verset 36. Il est bien écrit. Mais pourquoi une telle appellation? Mais parce que cet homme, voyez-vous, Barnabas, était doué pour encourager, pour exhorter, pour consoler Barnabas. Donc, son surnom ou son pseudonyme permettait de l'identifier à sa caractéristique essentielle. Il était en quelque sorte, oui, la consolation, l'exhortation incarnée. Barnabas, l'expression vivante et personnifiée de l'exhortation, de l'encouragement, de la consolation. Conséquemment ou par conséquent, pour les Juifs, l'expression « le Fils de Dieu » signifiait simplement ou bonnement « cet homme est Dieu ». Cet homme est Dieu, simplement. Jésus était la personnification de la divinité sur la terre. Cela explique le fait que chaque fois que le Seigneur appliquait cette expression, Fils de Dieu, voyez, il s'attirait des critiques et des reproches virulents de la part des scribes et des pharisiens incrédules. Incrédules, comment oses-tu, disait-il, qui penses-tu être? Tu te fais toi l'égal de Dieu? Oui, Fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Tu te fais toi l'égal de Dieu. C'est un blasphème, disait-il. Les scribes et les pharisiens incrédules. Il est vrai, évidemment, que Jésus n'avait pas caché son égalité et son unité avec Dieu. Mais en faisant cela, il ne blasphémait pas. Non, il disait la vérité. Je suis le Fils de Dieu, donc je suis Dieu. Oui. Alors, comment Jean a-t-il procédé pour démontrer la divinité de Jésus? Pour démontrer la divinité de Jésus, vous voyez, Jean a opéré selon le principe de la sélection. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous vous rendez compte qu'effectivement, il a opéré selon le principe de la sélection. Il a laissé ses pensées revenir à ces 3 années et demie mémorables qu'il avait passées avec le Seigneur. Lorsqu'il écrivait son évangile, Matthieu, Marc et Luc avaient déjà chacun écrit le leur. Jean n'a rédigé le sien que vers la fin du premier siècle. Il l'a écrit d'ailleurs comme un homme âgé qui évoque les événements ou les souvenirs du passé. Il était âgé, Jean. D'ailleurs, ce fait a été exploité par les adversaires les plus véreux et les critiques. Pour dire quoi? Pour dire que nous ne pouvions pas accorder du crédit à cet évangile, puisqu'il a été écrit par un vieillard qui tente de retrouver un peu ses souvenirs de jeunesse. Comme si Jean souffrait d'Alzheimer quelque part. Non, du tout. Rappelez-vous toutefois que les paroles et les actes de Jésus étaient tous les jours dans le cœur, dans la mémoire et sur la langue de l'apôtre Jean, depuis qu'il en avait été le témoin. Il n'a jamais perdu de vue toutes ces choses. Il n'a jamais cessé d'en parler. D'ailleurs, je vous ai dit dimanche dernier, la meilleure façon de garder le dépôt qu'on a reçu, de garder ce que le don qu'on a reçu, c'est de l'engager. Si vous n'engagez pas, c'est sûr que vous allez le perdre. Et c'est ce que Jean a fait. Il a exploité toutes ces choses. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Il a donc écrit pour lier les récits de Matthieu, Marc et Luc. Jean souligne fortement que Jésus est le Messie, le Christ et en même temps le Fils de Dieu. Voilà la première grande affirmation de cet évangile. Des personnes haut placées se demandaient, mais est-ce lui? Est-ce lui? Cet homme qui parcourt les rues de Galilée, est-ce lui? Est-il le Christ, le Messie annoncé par les prophètes, lui? Non, lui, ce n'est qu'un fils de charpentier, lui. Est-ce lui? Cette question était sur les lèvres de nombreux juifs du temps de Jésus, du temps de Jean, et elle divisait d'ailleurs le peuple. Les gens savaient que l'attente du Messie parcourait tout l'Ancien Testament. Donc, livre après livre, sous une forme ou sous une autre, les Écritures hébraïques annonçaient quoi? Il vient. Il vient, le Messie. Il vient à la fin de son livre. Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, annonce avec enthousiasme la venue du soleil de justice, c'est-à-dire le Messie. Le Messie qui apportera quoi? Mais la guérison sous ses ailes, Malachie chapitre 3, verset 20. Il ajoute justement en outre que Dieu enverra. Mais il enverra qui? Il enverra le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel. Malachie chapitre 3, verset 23. À l'époque de Jean, les foules étaient dans l'expectative des foules. Pourquoi? Car Jean-Baptiste, le courageux héros qui ressemblait tant à Élie, était apparu. Repentez-vous, repentez-vous. Et les gens lui ont posé la question, mais es-tu le Christ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste a répondu, non, je ne suis pas le Christ, mais celui que vous cherchez vient après moi. Il vient après moi. Lorsque Jésus s'est mis à parcourir maintenant à son tour les chemins de la Judée, de la Galilée, les foules aussi ont commencé à l'interroger. Les foules l'interrogeaient. Alors, es-tu le Messie? Est-ce que c'est toi? Le Seigneur Jésus a affirmé à plusieurs reprises qu'il était venu avec les pleins pouvoirs du Messie. C'est ce qu'il a fait en déclarant dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 1 à 2, où il a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un bruit. » Ensuite, il dit, « Mais moi, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Vous voyez, le mot bergerie fait allusion à la nation d'Israël. Jésus dit donc qu'il est le seul qui soit autorisé à entrer par la voie légale. C'est bien moi, par la porte. Si quelqu'un entre par un autre moyen, dit-il, c'est un voleur, mais c'est un brigand. Seul celui qui entre par la porte qui est quoi? L'ouverture officielle sera reconnu comme le souverain des brebis. Il poursuit par ces mots. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. La fonction du portier correspond à quoi? Correspond au ministère de Jean-Baptiste. Il était un portier, Jean-Baptiste. Il est venu ouvrir la porte comme précurseur du Messie. Jésus continue en se désignant comme le Messie. Mais sur quoi se base-t-il pour justifier sa messianité? En prenant ses lettres d'accréditation dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4, Jésus, debout au milieu de l'auditoire, nous dit le passage, ouvre le rouleau du livre du prophète Ésaïe, à l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Après avoir commencé par d'une part, Jésus est le Fils de Dieu, maintenant terminons par d'autre part, Jésus est le Christ, le Messie, ce qu'il vient de déclarer. Le nom Messie signifie « oint ». Jésus a lu le prophète Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur m'a oint, dit-il. En d'autres termes, Jésus dit, mais ce passage s'applique à moi. Il m'a oint. Je suis le Messie promis et attendu. C'est bien moi. Pour démontrer que Jésus est vraiment revêtu de l'autorité du Messie, maintenant Jean a choisi quoi? Il a choisi sept, je dis bien sept événements. Le symbole même de la plénitude, sept événements de la vie de Christ, sept signes de Messie qui représentent dans son évangile ce que Jésus a accompli pour démontrer qu'il était le Messie. Et nous allons les prendre justement par l'ordre où ils apparaissent, avant de terminer ce message. Le premier signe, frères et sœurs, du Messie, c'est l'eau changée en vin. L'eau changée en vin, Jean chapitre 2, verset 1 à 11. C'est le premier miracle de Jésus, une sorte de parabole en action. Au mariage célébré à Cana, en Galilée, Jésus accomplit un acte très symbolique. Il prend une substance qui appartenait au monde sans vie, l'eau. Il la transforme en une substance vivante. Mais parce que le vin est le résultat de la fermentation. Oui. Il prend de la matière et il en fait quelque chose qui est encore toujours associé à quoi ? À la joie et à la vie. Par ce miracle, il révèle de façon symbolique ce qu'il était venu faire. Apporter quoi ? La grâce divine. Moïse a apporté la loi, nous dit la parole, mais Jésus a apporté la grâce et la vérité. Car Dieu était résolu à procurer la vie aux hommes brisés, vides et morts. Il apporte la grâce. Le deuxième signe du Messie, c'est la guérison. La guérison du fils d'un officier du roi. Jean chapitre 4. Le personnage principal de ce récit n'est pas le fils qui est à l'agonie, proche de la mort, mais l'officier même du roi, venu au devant du Seigneur avec un cœur lourd de chagrin. Dans sa peine immense, l'officier du roi supplie Jésus, « s'il te plaît, descends chez moi et guéris mon fils, s'il te plaît. » Le Seigneur a non seulement guéri son fils à distance, prononçant juste une parole, d'ailleurs comme il est écrit dans le récit de la création, il a appelé les choses à l'existence uniquement par la parole. Oui, il a guéri à distance par la parole, mais il a également guéri quoi ? Le cœur meurtri de ce père. Oui, comme d'ailleurs il l'avait déclaré, je suis venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Troisième signe du Messie, Jésus rend, en tout cas, l'usage même de ses membres à un infirme étendu au bord de la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, cet homme était là, couché depuis 38 ans, prisonnier de la maladie, de la paralysie. Il ne pouvait jamais sauter dans la piscine. Il avait été amené là, justement, avec l'espoir d'être guéri, d'être affranchi. Le choix du Seigneur se porte sur lui. En présence de la foule, il le guérit et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche, marche. Pas question d'aller dans la piscine, marche. » Ici, Jésus démontre son pouvoir de libérer, mais de libérer ceux qui sont captifs en un mot. Il rend la liberté à cet homme prisonnier de la maladie depuis bien des années. Il n'y a que seul Jésus qui peut faire ça. Quatrième signe du Messie, c'est la multiplication des pains pour nourrir 5000 hommes. Jean chapitre 6. Ce miracle est rapporté dans les quatre évangiles d'ailleurs. Il est associé aussi à un autre fait miraculeux, à un autre miracle, qui est le fait que Jésus marche sur l'eau. Quelle est la signification de ce miracle ? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas lire ce merveilleux miracle de la multiplication des pains et des poissons sans y voir une extraordinaire démonstration du vouloir et du pouvoir de Jésus de faire quoi ? Mais de répondre aux besoins les plus profonds de l'être humain, les besoins les plus existentiels. Mais qui est aussi La soif de Dieu, pas seulement de manger, mais aussi la soif de Dieu. L'homme a soif de Dieu, même s'il le renie. Oui, l'homme a plus besoin de Dieu que de la nourriture. Mais je vous assure, le Seigneur se sert du pain justement pour donner une leçon à ses auditeurs. En effet, il avait déclaré dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4, vous le savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, il précise ce qu'il entendait par pain. Il dit, mais moi, je suis le pain de vie, le pain. Mais vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le pain. Il a en outre pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rempli et on en a distribué aux 5000 hommes qui ont mangé, mais vraiment à satiété. Il en a resté plein. Quelle belle image pour montrer que Jésus comble pleinement tous les besoins de l'âme humaine assoiffée. Cinquième signe du Messie, évidemment Jésus marche sur les eaux. C'est après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus a envoyé ses disciples affronter les vents contraires avant de les rejoindre en marchant sur les vagues. Un vent fort soufflait et les vagues formaient des creux impressionnants, menaçants d'engloutir la barque. Les disciples étaient assis, saisis de peur, de frayeur. En s'approchant d'eux, le Seigneur Jésus apaise leur crainte, leur frayeur et leur dit, n'ayez pas peur. Seigneur, soyez sans crainte. Le double miracle donc, de la multiplication des pains et de la marche sur les eaux souligne la capacité de Jésus à répondre aux besoins de l'homme, à le délivrer justement de cet ennemi qui est quoi ?
La peur.
La peur. Non, soyez sans crainte. Soyez devant n'importe quel type. Soyez sans crainte, nous dit Jésus. Regardez à Dieu. Ne regardez pas aux difficultés. Sixième signe du Messie, la guérison d'un aveugle né. Jean chapitre 9. Frères et sœurs, alors ce récit, en fait, ne nécessite aucun commentaire, si ce n'est de dire que Jésus a déclaré être venu pour proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles. C'est ce qu'il fait. Afin de donner plus d'éclat un peu à ce miracle, le Seigneur a choisi quoi ? Un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance, et il lui a rendu la vue. C'est une belle image qui s'applique à quoi ? À tous les hommes qui, spirituellement, mais sont aveugles dès leur naissance. Spirituellement, on est mort. Dès notre naissance, aveugle. Et enfin, septième et dernier signe du Messie, vous le savez, c'est un miracle extraordinaire, la résurrection de Lazare. Waouh, Lazare sort. Jean chapitre 11. Ce miracle, bien aimé, symbolise la délivrance, la pleine délivrance de tous ceux qui sont restés toute leur vie, les prisonniers de la peur de la mort. Mais mort, où est ton aiguillon, dit l'apôtre Paul. Mais oui, où est ton pouvoir? Jésus enlève à la mort son aiguillon. Là. Ainsi, frères et sœurs, les sept disciples prouvent sans le moindre doute que Jésus est le Messie. Je vous assure qu'il n'y en a pas deux. Jésus est le Messie. C'est lui que Dieu a oint, lui que l'Ancien Testament avait promis. La rédaction de l'évangile de Jean a donc poursuivi deux objectifs. Il a cherché à nous persuader en nous montrant Jésus et son pouvoir de libération. Oh Seigneur, qu'avec lui nous sommes vraiment en présence du Messie, le libérateur promis. Mais ce n'est pas le secret essentiel concernant Jésus. Tout au long des siècles de l'histoire de l'Ancien Testament, un secret étonnant avait été gardé. Les prophètes avaient annoncé, prophétisé la venue du Messie, un grand homme de Dieu allait venir. Mais qui savait? Qui aurait pu imaginer? Qui aurait pu s'attendre à ce que ce grand homme soit le Fils de Dieu? Qui? Autrement dit, Dieu lui-même, sous la forme humaine. Dieu lui-même. C'est là le deuxième objectif de Jean, démontrer que Jésus est Dieu. Donc, la présence de l'homme Jésus, par la présence de l'homme Jésus, frères et sœurs, nous voyons à quoi Dieu ressemble. Oui. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, Dieu le Père, n'a jamais été vu ni entendu par les êtres humains. Dieu le Père. Mais que Dieu le Fils, dit-il, Jésus, qui est dans le sein du Père, est celui qu'il a fait connaître. Ce verset est l'expression de la foi chrétienne et la révélation de Dieu en Jésus, qui est Dieu lui-même. Bien-aimés, souvenons-nous, quand Philippe pose la question à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Celui qui m'a vu. Mais ne crois-tu pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ouais, frères et sœurs, le Père se donne à voir en Jésus. Alors ma question, cette question que je vous laisse, as-tu vu Jésus? As-tu vu Jésus? Si oui, donc tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu. Point final, que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.